Il la laissa, puisant dans le pot de miel, à petite cuillerée, et d'un air d'extase. Tout l'or du monde, tout l'or du monde pour lui voir ce visage heureux. Elle vivra, j'en suis sûr. Elle est malade de faim, certes, mais surtout, elle était malade de moi, pensait-il avec la belle fatuité de la jeunesse. Descendu dans la grande salle, il prit Dame Eliabelle à part pour lui dire qu'il avait rapporté d'Italie d'excellentes reliques, fort efficaces, et qu'il souhaitait prier dessus, seul dans la chapelle, afin d'obtenir la guérison de Marie. La veuve s'émerveilla de ce qu'un jeune homme si dévoué, si allant, si habile, fût en même temps si pieux. Guccio, ayant reçu la clé, gagna la chapelle où il s'enferma. Il n'eut pas de peine à retrouver la dalle près de l'autel, la souleva, et, d'entre les ossements effrités d'un lointain sire de Cresset, retira l'étui de plomb, qui contenait, outre le double des comptes du roi d'Angleterre et de Monseigneur d'Artois, la pièce attestant les malversations de l'archevêque Jean de Marigny. « Voilà une bonne relique pour guérir le royaume, » se dit-il. Il replaça la dalle, la recouvrit d'un peu de poussière et sortit, prenant une mine dévote. Bientôt après, ayant reçu remerciements, embrassades et bénédictions de la châtelaine et de ses fils, il se remit en route. Il n'avait pas franchi la Mauldre que les Cressets déjà se précipitaient à la cuisine. « Attendez, mes fils, attendez au moins que je vous apprête un repas !» dit Dame Eliabelle. Mais elle ne put empêcher les deux frères de se tailler de larges rondelles dans une saucisse séchée. « Ne pensez-vous pas que Guccio ait épris de Marie, pourtant se soucier de nous ?» dit Pierre de Cresset. « Il ne nous réclame pas nos dettes, ni même les intérêts, et au contraire nous couvre de présents. »« Mais non, » répondit vivement Dame Eliabelle. « Il nous aime tous bien, voilà tout, et il est honoré de notre amitié. » « Ce ne serait point un si mauvais parti, » dit encore Pierre. Jean, l'aîné, grogna dans sa barbe. Pour lui, qui était en position de chef de famille, la perspective d'accorder sa sœur à un Lombard heurtait toutes les traditions de noblesse. « Si telles étaient ses intentions, jamais je n'accepterais. » Mais comme il avait la bouche pleine, il se retint d'achever sa pensée. Certaines circonstances endorment un moment scrupules et principes, et Jean de Cresset, mâchant, demeura songeur. Cependant, Guccio, trottant vers Paris, se demandait s'il n'avait pas eu tort de partir si vite et de ne pas saisir l'occasion pour solliciter la main de Marie. Non, c'eût été indélicat. On ne présente point pareille requête à des gens affamés. J'aurais paru vouloir profiter de leur misère. J'attendrai que Marie soit guérie. En vérité, le courage de la décision lui avait fait défaut et il cherchait des excuses à son manque d'audace. La fatigue à la tombée du jour l'obligea de s'arrêter. Il dormit quelques heures à Versailles, petit village triste et isolé au milieu de marécages insalubres. Les paysans, là aussi, mouraient de faim. Le lendemain matin, Guccio arrivait rue des Lombards. Aussitôt, il s'enferma avec son oncle, auquel il raconta d'un ton indigné tout ce qu'il venait de voir. Son récit occupa une grande heure. Mais certes, Ptolomei, assis devant son feu, écoutait très calmement. « J'ai bien fait pour la famille Cresset. Tu m'approuves ?» « N'est-ce pas, mon oncle ?»«
Certes, certes, mon ami, je t'approuve. Et d'autant plus volontiers qu'il ne sert de rien de discuter avec un amoureux. Tu as rapporté la décharge de l'archevêque ?»«
Oui, mon oncle, » répondit Guccio en lui tendant l'étui de plomb.
« Tu me dis donc, » reprit Ptolomei, « que le prévôt de Montfort a déclaré percevoir le double des tailles, dont il reverse une partie à un commis de Marigny. Sais-tu quel commis ?»
« Je pourrais le savoir, ce drôle me croit maintenant très fort son ami. »«
Et il affirme que les autres prévôts agissent de même. »«
Sans hésiter, n'est-ce point une honte ? Et ils font un infâme commerce de la faim, et ils s'engraissent comme porcs, tandis qu'autour d'eux le peuple crève. Le roi ne devrait-il pas en être averti ?»
L'œil gauche de Ptolomei, cet œil qu'on ne voyait jamais, s'était brusquement ouvert. Et tout son visage en prenait une expression différente, à la fois ironique et inquiétante. En même temps, le banquier frottait l'une contre l'autre lentement ses mains grasses et pointues.
« Eh bien, ce sont de fort bonnes nouvelles que tu m'apportes là, mon cher Guccio, de fort bonnes nouvelles, » dit-il en souriant.